Mars, c'est un goût. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. Mars, et ça repart.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Cathy,
Philippe,
Agnès,
Francky,
Fabrine,
Florine et notre rapporteuse Catinou. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange au Parapluie, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient
à cœur.
8 mars et ça repart. Wesh, ça repart bien. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive à un carrefour avec deux chemins qui s'offrent à nous. D'un côté, la médiocrité avec un sacré retour en arrière de combats de femmes remis en cause. Et un autre chemin, plus que jamais combatif pour l'égalité, l'équité, la reconnaissance des droits des femmes et des humains en général. Les amis, va falloir pas se tromper de route, au risque de se perdre définitivement.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? But see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow.
Quelques chiffres sur les femmes. Elles perçoivent des salaires de 23,5% en moyenne inférieurs à ceux des hommes. Elles occupent 42,6% des emplois de cadre, alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes. Elles représentent 57% des smicards. Elles occupent près de 80% des emplois à temps partiel. D'ailleurs, des temps partiels très souvent imposés. Elles touchent des pensions retraite 38% moins élevées en moyenne que celles des hommes. Elles sont à la tête de 82% des familles monoparentales. Et enfin, elles prennent 95% de ce que nous avons en contingent de congés parentaux. Nous voulons enfin des actes. Le 8 mars, et ça repart. Non, le 8 mars, c'est toute l'année.
Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Les amis, c'est Catinou. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous comment cette journée est célébrée et reconnue dans différents pays en dehors de la France. Je me suis tout d'abord posé la question de savoir où cette journée internationale de la femme était le plus célébrée. Eh bien, il faut savoir qu'en Russie, c'est un jour férié officiel. Les femmes reçoivent des fleurs, des cadeaux, des vœux et des événements sont organisés pour célébrer et promouvoir l'égalité des sexes. C'est également le cas au Vietnam, avec aussi des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes. En Chine, c'est un jour férié partiel pour les femmes travaillant dans le secteur public, avec des conférences pour discuter des progrès réalisés et des défis restants pour la promotion des droits des femmes. En Italie, cette journée est marquée par des manifestations colorées et festives et on offre du mimosa, symbole de force et de féminité. En Tunisie, roses, mimosa et des cadeaux sont offerts aux femmes par les hommes pour exprimer leur gratitude et leur respect. Mais les droits des femmes varient considérablement d'un pays à l'autre et malheureusement, dans certains pays, les femmes continuent à faire face à des discriminations et des restrictions importantes. En Afghanistan, depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les femmes sont interdites de travailler dans de nombreuses professions et l'accès à l'éducation pour les filles est sévèrement restreint. En Arabie Saoudite, les femmes continuent à faire face à des restrictions importantes en matière de liberté et de droits légaux. Au Yémen, les femmes sont confrontées à des discriminations et à des violences généralisées. Au Soudan, le droit des femmes est négligé, les violences sont courantes et l'accès à l'éducation est limité. Au Pakistan, les femmes font face à des discriminations dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, notamment par des mariages forcés, l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé. Et oui, il y a encore des défis importants auxquels les femmes sont confrontées en matière de droit et d'égalité dans le monde. Alors célébrer cette fête, c'est bien. Mais continuer à sensibiliser et œuvrer pour faire évoluer la situation des femmes dans certains pays, c'est mieux. Allez, vive les femmes, vive la diversité, vive les femmes de toutes les couleurs et de toutes les nationalités. Et je souhaite mettre à l'honneur cette chanteuse, Mona Edar, qui va vous interpréter la chanson « Hijabi, wrap ma hijab », qui transmet le message d'aimer les femmes de toutes les nuances, partout dans le monde, qu'elles soient couvertes ou non d'un hijab, et de ne pas les prendre pour acquises. Bonne écoute à tous, et à une prochaine chronique, les amis.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. All around the world, love women every shade of. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers, and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma, I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted.
Coucou les amis! Alors, de mon côté, je me suis intéressée à la pléthore de journées nationales, internationales, mondiales, j'en passe et des meilleures. Et je vous avoue, il y en a pour tous les goûts. Journée de la paix, de la science-fiction, de la quenouille, et oui, du bain moussant, journée mondiale des merci, tiens, c'est joli, journée internationale contre l'islamophobie. Tiens, c'est marrant, on n'en parle pas beaucoup en France, non ? Mais bon, revenons au 8 mars et à la journée des droits de la femme. Alors je remercie Katinou pour son tour d'horizon des différentes manières de fêter les femmes dans le monde. Ainsi, en Russie, on offre des fleurs aux femmes et on leur lit de la poésie. Soit, mais pour apporter un petit contrepoint, je sors de la lecture du livre de Laura Poggioli, « Trois sœurs », dont je vous recommande vivement la lecture. L'autrice nous fait part d'un fait divers tragique. En 2018, à Moscou, trois jeunes filles tuent leur père. Celui-ci a fracassé leur mère pendant des années. Celle-ci a alerté, porté plainte à plusieurs reprises, mais le père est allé jusqu'à venir tabasser sa femme en plein commissariat. Les flics ont alors gentiment demandé au couple d'aller laver leur linge sale en famille. En effet, il y a un proverbe russe qui dit « S'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Lassé d'avoir trop aimé sa femme, sans doute, le père a fini par la jeter dehors. Les trois filles sont restées avec leur père et ont été, comme vous vous en doutez, très, très, mais alors très aimées. Vous imaginez donc leur calvaire qui a conduit le 27 juillet 2018 au meurtre de leur bourreau. Laura a appris le russe dès le lycée. Elle en aime la langue, la culture, la poésie. Elle a même connu l'amour en Russie. Mais son enquête concernant les sœurs Khatchatourian l'amène à interroger le rapport homme-femme en Russie, ainsi que sa propre histoire d'amour, car oui, elle aussi, elle a été très aimée. Les violences rapportées dans ce livre en rendent la lecture souvent difficile, et l'autrice nous amène à penser une réalité russe, celle du fléau des violences faites aux femmes dans l'indifférence générale. Ainsi, nous apprenons, entre autres, qu'en 2021, la Douma, le Parlement russe, a approuvé les amendements Dimitri Viatkin. Désormais, les victimes d'abus sexuels risquent jusqu'à 5 ans de prison s'il leur prend l'envie de dénoncer publiquement les crimes et le harcèlement qu'elles ont subis. Mais ne soyons pas trop jaloux de nos amis russes, car si la loi semble encore de notre côté et que l'IVG est entrée dans la Constitution, je rappelle toutefois qu'un médecin peut encore refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse sous prétexte de clause de conscience. Et que le procès Mazan, eh ben c'est chez nous et c'est en 2024. Bref, si vous voulez mon avis, les amis, leurs fleurs pleines de pesticides, ils peuvent se les mettre au cul, Lulu.
Regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring, la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
L'émission qui dérange.
Bonjour à toutes et tous. Parce qu'elles sont nées la même année, en 1927, parce que ce sont deux femmes de conviction qui ont toujours défendu la vie et qui ont fait avancer le droit des femmes en France, avec le soutien populaire, la compagnie lyonnaise Novecento a imaginer une lecture spectacle autour de ces deux figures majeures, Gisèle Halimi et Simone Veil. Les comédiennes présenteront le spectacle Gisèle et Simone, dialogue en miroir, à la salle des fêtes de Saint-Trivier-de-Courte, le lundi 7 avril à 20h. Cette soirée est organisée par l'association ABCDE de Morvel, avec le soutien de la municipalité de Saint-Trivier, qui, comme vous le savez, la ABCDE organise chaque mois une conférence, une projection ou un spectacle en lien avec les enjeux sociétaux sur tout notre territoire, comme à Saint-Trivier le 7. Le prix est libre, libre participation aux frais. Lors de cette soirée, l'exposition « Femmes de l'Ain, héroïnes » des archives départementales de l'Ain sera aussi présentée ce soir-là, et une autre surprise se prépare venant du collège Louis Vuitton. Alors, à vos agendas et au lundi 7 avril à Saint-Trivier.
Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante. Parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles. Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Julie.
Il est bien connu que les petites filles aiment imiter leur maman entre 3 et 6 ans. Rien de plus normal. Cela fait partie de la construction de leur personne. Elles imitent avant de prendre leur envol et parfois, ou même souvent, de s'opposer à celles qu'elles aimaient prendre pour exemple. L'imitation est de l'ordre du jeu, de l'imaginaire. Se maquiller, mettre du vernis, essayer les chaussures à talons, les chapeaux. Il existe maintenant des instituts de beauté pour enfants à partir de 3 ans. Et il n'est pas rare de voir des fillettes d'à peine 10 ans profiter de massages relaxants pour 45-65 euros, de soins du visage pour 75 euros, de massages du haut avec parents pour 158 euros. Cette découverte m'a sidérée. Serais-je une grincheuse rétrograde, une boumeuse réac, incapable de vivre avec son temps, incapable d'accepter que des petites filles puissent profiter des derniers produits de beauté aux parfums de vanille, chocolat, fruits ou barbe à papa? Tiens, ça ne vous rappelle pas les parfums de vapoteuses? On pourrait peut-être aussi ajouter des vapoteuses ou des chichas dans ces instituts pendant qu'on y est. Incapable d'accepter la génération de celles que l'on appelle déjà depuis plusieurs années aux États-Unis les Sephora Kids. Ces enfants pourris par les youtubeuses ou influenceuses de TikTok qui leur vantent et vendent ces produits dernier cri qu'elles veulent essayer à tout prix dans une société de consommation sans limite. Mais apparemment, je ne suis heureusement pas la seule. Ce développement des instituts pour enfants inquiète la Société française de dermatologie et la Société française de dermatologie pédiatrique pour plusieurs raisons. La première est d'ordre médical. Il n'existe pas à ce jour de réglementation définissant les cosmétiques spécifiquement destinés à l'enfant. Il n'existe que des substances et ingrédients interdits à l'enfant. Imaginons donc que nous puissions donner à un enfant des médicaments au même dosage que celui des adultes. Le ferait-on ? La deuxième raison est plutôt de l'ordre du bon sens, d'une règle d'hygiène de base. Comme ils le disent, la peau de l'enfant est une peau ni trop sèche ni trop grasse qui ne nécessite en général rien d'autre pour son entretien courant qu'une toilette à l'eau avec un produit nettoyant doux en rinçant. Il n'y a aucune routine beauté à conseiller chez l'enfant en dépit de messages marketing largement diffusés. Comme l'idée que les petites filles doivent absolument apprendre les bons gestes pour prendre soin de leur peau. Laurence Corroy, professeure des universités à l'Université de Lorraine, directrice de recherche au CREM, spécialisée en sciences, spécialisée en sciences de l'information et de la communication, soulevée en janvier 2024 pour Marie-Claire, désolée de la source, mais voilà, c'est une source, les mêmes inquiétudes sur cette gestion du corps performative très prématurée, qui peut créer, entre autres, cette illusion pour les petites filles qu'elles ne vieilliront pas. Le danger est que l'imitation, le jeu de la petite fille, se trouve soudain ancré dans la réalité avec ses instituts et ne fasse plus partie de l'imaginaire. Quitte à jeter un autre pavé dans le miroir, j'évoquerai cette tendance à matcher les vêtements mère-fille qui amène parfois à la fabrication de vêtements pour petites filles, copie conforme des vêtements pour adultes. Cette pseudo-connivence mère-fille est-elle voulue par l'enfant ou la mère qui aimerait avoir sa mini-mi à ses côtés? Une mini-mi qui permet à la mère de ne pas vieillir, qui empêche l'enfant et qui empêche aussi l'enfant de créer son image différente de sa mère, de se démarquer. Les scientifiques alertent sur les conséquences psychologiques que ces pratiques peuvent avoir sur l'image de soi de l'enfant. L'érotisation de l'image de l'enfant est ainsi banalisée de façon préoccupante, alors qu'il faudrait sans doute juste laisser le temps à l'enfant de vivre son enfance et de grandir à son rythme.
Si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines. Pour les trop mauvais temps, t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses.
Qui est pavé.
L'émission qui dégrange.
En mars, on lâche rien. D'ailleurs, écoutons Anaïs du collectif Cuiristan Burgien qui va vous parler de différents combats qui sont menés. Allez, c'est parti.
Le Cuiristan Burgien est né autour d'un verre en terrasse. Nous étions quelques personnes concernées par les questions LGBTQI+, et nous étions ravis de nous retrouver et nous avions envie de nous fédérer pour pouvoir se retrouver autour de toutes ces questions. C'était au départ une simple conversation de groupe sur une application et nous avons eu envie ensuite de proposer des choses et nous avons commencé par des soirées pédagogiques sur les transidentités. Nous l'avons fait une première fois et on en a fait d'autres par la suite et nous en ferons certainement encore. Nous avons ensuite démarré des permanences mensuelles puis bimensuelles. Elles sont adressées aux personnes concernées par les questions LGBTQI+, mais également leurs proches et aussi pour les personnes en questionnement. Ces permanences ont lieu deux fois par mois, le premier mardi du mois de midi à 14h et le troisième mardi du mois de 18h à 20h. Et jusqu'au mois de juin, ce sera, et c'est toujours, au café de la Tannerie à Bourg-en-Bresse. Le Cours Istanburgien est donc un réseau d'entraide et de soutien pour les personnes concernées par ces questions. Et nous avons donc quelques valeurs. L'idée, c'est de lutter contre toutes sortes de discriminations. Donc, bien évidemment, contre les discriminations LGBTQI+. Mais on va au-delà de ça et on souhaite aussi lutter contre le sexisme, le racisme, le validisme. Donc le validisme, c'est les discriminations liées au handicap et toute autre forme de discrimination. Une autre de nos valeurs, c'est de laisser le droit à l'autodétermination des personnes. Quand on parle d'autodétermination, c'est au niveau du genre et des sexualités. Jusqu'à maintenant, le collectif Cours Istanburgien n'était qu'un collectif, entre guillemets, un rassemblement de personnes concernées, mais nous sommes en train actuellement de faire les démarches pour devenir une association. Il nous arrive parfois aussi de répondre à des invitations, par exemple des médiathèques pour le mois du documentaire nous ont conviés à des projections de documentaires sur ces questions et à participer à une discussion qui a eu lieu ensuite. Nous sommes disponibles pour toute question sur les réseaux sociaux. Vous nous trouverez sur Facebook, sur la page Le Cours Istanburgien et également sur Instagram, Le Cours Istanburgien. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet couristamburgien.wixsite.com/LGBT et bien sûr, vous pouvez nous retrouver à nos permanences.
Pavé.
L'émission qui dégrange.
Bonjour à toutes et tous. Je pensais pour ce mois de mars vous parler de la tradition des conscrits et du lien avec l'égalité homme-femme, mais je pense que je creuserai le sujet avec d'autres éclairages encore sur les conscrits sur une prochaine émission. Donc sur ce thème effectivement du sexisme, de l'égalité homme-femme et donc de notre choix pour Briques et Pavés Mars, je vais vous parler du groupe Barrière. Donc le groupe Barrière, c'est un des leaders, c'est je pense le leader, de l'hôtellerie-restauration de luxe en France. Et le jeudi 23 janvier 2025, en prévision effectivement du 8 mars, le groupe Barrière rejoint le collectif #Stop qui regroupe effectivement des grandes entreprises qui s'engagent à avoir une démarche de responsabilité sociale et d'égalité professionnelle. Jusque-là, tout va bien. À travers cette signature, le groupe Barrière s'engage à respecter et faire respecter au moins une action suivante. Donc vous voyez déjà, ils commencent à être un peu plus modestes dans leur objectif, puisque une action, ça peut être afficher et appliquer le principe de tolérance zéro, former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques, prévenir les situations de sexisme, sanctionner les comportements répréhensibles, et mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi. Donc bon, bonne intention, si c'est mis en place, why not? Là où il faut quand même être prudent, c'est que si on fait un petit flashback jusqu'à 1999, pardon, on apprend que le groupe Barrière, propriétaire du Fouquet's à Paris, est quand même en la matière, à une marge de progression assez élevée. Je m'explique. Un article de Libération du 12 novembre 1999 rappelle les faits suivants. Dimanche 7 novembre, en fin d'après-midi, Nadine et Elisabeth décident d'aller au cinéma sur les Champs-Élysées. Trop tard pour la séance de 18h, elles prendront un thé en attendant celle de 20h. Et de s'engouffrer dans le premier café venu, le Fouquet's. Un homme les stoppe dans le sas d'entrée. Les femmes non accompagnées ne sont pas admises au Fouquet's. Stupéfaites, les deux jeunes femmes demandent des explications. Peuvent-elles s'entretenir avec le directeur? C'est moi le directeur, répond leur interlocuteur qui leur intime l'ordre de quitter les lieux. Quelques minutes après, le vrai directeur arrive. Mais celui-ci ne se démonte pas et explique aux deux jeunes femmes interloquées qu'effectivement, on est sur un quartier où il y a beaucoup de va-et-vient et qu'effectivement, pour éviter le racolage et la prostitution, accrochez-vous, et bien effectivement, les femmes non accompagnées d'un homme ne sont pas acceptées dans le café-brasserie du Fouquet's. Je vous rappelle qu'on est en 1999, qu'on est à Paris, en France, qui est quand même effectivement normalement la cité et le pays des Lumières et des droits de l'homme, et qu'on est sur un café-restaurant qui est, je vous le rappelle aussi, un ERP, établissement qui reçoit du public. Donc on est clairement dans un cas de discrimination complètement assumé, effectivement, et la tradition misogyne n'est pas gênante pour effectivement le Fouquet's, qui, je vous le rappelle pour l'anecdote, fera parler de lui cet établissement pour effectivement le petit pot que Sarkozy fera avec plein d'amis, dont Bolloré a l'accès au pouvoir quand il deviendra président de la République. Donc bref, le Fouquet's a quand même un passif, et je pense que ça sera intéressant de voir si le groupe Barrière va respecter ce qu'il a signé en 2025, puisque je pense que le groupe Barrière, comme plein d'autres, est parfois effectivement sort sur la vague des thèmes sociaux sans forcément s'attacher aux racines des problèmes et au traitement des inégalités.
Margaret Thatcher et Seattle Cross, que pour se maquiller il lui faut une agrafeuse. Nancy Reagan est tellement monstrueuse qu'elle se coiffe à l'aide d'une tronçonneuse. Brigitte Bardot a toujours été un cajot. Elle est farouche, les plus farouches de ses chiens. Leni Riefenstahl est moche jusqu'à la moelle. Le bon reflet de son art hitlérien. Renaud fait un peu crapaud, mais pas autant que Marie-France Garo. Alors on ouvre les yeux et on respire mieux. Elle se cache derrière l'air Figaro. Mireille d'Arc a l'air assez smart, tant qu'on ne la voit pas de près. Mais même cette Mireille est une vraie beauté. À côté des dames Stirbois et Maigret, la biffée, le moine et fait la chanson, l'envie de jambon fait cochon qui boite. Et comme on dit en français, du terroir à l'Élysée, il n'y a pas de jolie fille à droite. Et Pérec a perdu son éclat, sauf aux yeux des publicitaires. Et Françoise Hardy est bien moins jolie depuis qu'elle salue les copains réactionnaires. Les Spice Girls, ils deux, sont encore plus disgracieuses depuis qu'elle vénère Madame Thatcher. À Salt Lake City, au fond de mon pays, les filles du coin font vraiment peur, car ces Américaines votent républicain quand mes frères en femme de mon frère. La biffe et le moine élève et la chanson, caresser la crasse fait des mains moites. Et comme on dit en français, et Dieu sait si c'est vrai, il n'y a pas de jolie fille à droite.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Quiz à Mars et ça repart. Alors, je vous pose des petites questions avec, avec des choix multiples parce que on a déjà bien fêté l'anniversaire d'Agnès. Bon allez, question 1. Quand a été promulguée la loi légalisant l'avortement? 1969, 1974, 1975. Tu vois les réponses.
Non, je vois les réponses. 75.
Voilà. Bon, on va dire qu'on révise, on révise. C'est bientôt.
Un an près, je ne serais plus là, dis donc. Je ne serais pas là.
Tu serais fait avorter, toi.
À partir de quand l'interruption volontaire de grossesse a-t-elle été remboursée par la Sécurité sociale ? 1970, 1980 ou 2000 ?
80.
2000.
Ah, c'est peut-être 2000. 2000.
2000. 2000.
1980.
Ah, oui, 2000 avant Jésus-Christ.
Vous m'avez fait douter.
C'était avant Jésus-Christ.
Comment s'appelait le premier journal féministe français ? La Femme Libre, La Parisienne ou Cosette ?
Oh, la Parisienne. Parisienne.
La Parisienne.
La Parisienne.
Eh ben non, la femme libre.
Ah, oui. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne.
Marie-Paul Bell.
Marie-Paul Bell, tu vois.
Elle a été guillotinée en 1793 et est considérée comme l'une des pionnières du mouvement féministe en France. Non, et pas du tout Marie-Antoinette. Quel est le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes ? Est-ce la Grande-Bretagne, la Finlande ou la Nouvelle-Zélande ?
La Grande-Bretagne.
La Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande.
Oh ouais, oui.
Alors là, c'est une question de rapidité. Oui. Qui a écrit le deuxième sexe ?
Simone de Beauvoir. Indochine. Tu vois qu'on le porte, ce fluide.
Mais oui. Qui a déclaré : je suis rassurée de savoir que cette génération est la première qui comprend qu'il faut valoriser les femmes.
Jean-Luc Lahaye.
Est-ce Jean d'Ormesson, Dominique Strauss-Kahn ou Pharrell Williams ? Pharrell Williams.
Happy.
Britannique ou okay.
Oui, voilà. Depuis quand les partis politiques doivent-ils présenter un nombre égal de candidats hommes-femmes à la plupart des élections ?
2000.
Voilà. Bravo.
J'ai la main sur la parité.
Et 2000. Voilà, c'était le quiz 1 mars et ça
repart.
Les amis, pour cette émission, ça vous donne envie de chanter, les filles ?
Oui !
Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins.
Stop, stop !
Oui, oui, stop, stop, stop. Le mois prochain, on parle de quoi, Francky ?
Eh ben, c'est l'apparence. T'as le look, Coco.
Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau.
En attendant, quelques dates à retenir. 19 avril, fête des boîtes à lire dans les communes de Vernoux et Saint-Trivier-de-Courte. Le 1er mai, fête du jeu à Rien ne m'amuse. Et toujours nos sorties collectives à retrouver sur nos supports habituels. Facebook, site internet, newsletter, panneau pocket des mairies Friendly. Bisous, bisous.
Bisous, 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 bisous.
Et bon anniversaire à Agnès.
Bon anniversaire.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout.
Briquet pavé pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briquet pavé,
l'émission qui dégrange.